On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonjour, bonjour, bonjour ou bonsoir. Bonsoir à toutes et tous, on refait le match 37e de la saison 37. Je salue les auditeurs d'Indre-et-Loire et notamment les supporters du Tour Football Club, malheureusement en National 3, mais dont ma petite voix me dit que dans l'entourage du club et parmi ses aficionados, il y aurait une mobilisation avec des projets innovants pour retrouver le plus vite possible le haut niveau que le club de la Vallée du Cher n'aurait d'ailleurs jamais dû quitter. Bienvenue à vous tous également. À 20h, ce sera RTL Foot, et notamment, mais pas seulement, l'intégralité Lille-Nice, alors que depuis 17h, le PSG reçoit Lens et que le Paris Saint-Germain mène face au sang et or, 75 minutes de jeu sur le score de 2-1 dans un instant le Parc des Princes. Avec moi ce soir, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir à toutes et à tous.
Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous, bonsoir
Stéphane
à toutes.
Stéphane Powels, la voix du Benelux. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Et Xavier Barret, bonsoir Xavier.
Salut Christian, bonsoir à tous.
Un ami de la maison, auteur du guide de l'Euro 2021 que je montre aux caméras qui réalisent cette émission. Vous pouvez regarder évidemment cette émission sur l'application RTL, sur le site internet rtl.fr, avec vos messages sur Twitter @RTLFoot, relayé par Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste d'ailleurs.
Bonsoir tout le monde.
Nous aurons l'occasion de reparler de cet ouvrage, un guide où on retrouve toutes les équipes, tous les joueurs, toutes les stats, le calendrier et 60 ans d'histoire du championnat d'Europe des Nations chez Solar Édition. Au menu ce soir, messieurs, qui pour le titre de champion, les places européennes, qui pour la descente? J'ai passé ma nuit à calculer et à faire des pronostics pondérés. Je vous donnerai ce qui n'est pas un pronostic, mais quasiment une science exacte. La Ligue 1 a 16 ou 18 clubs. Voilà qui agite le microcosme du football français. Êtes-vous pour? Êtes-vous contre?
À 12 même.
Le Paris Saint-Germain, le PSG qui jouera à City mardi prochain. La remontada est-elle possible selon vous? Plusieurs clubs ce week-end boycottent les réseaux sociaux pour protester contre le racisme. Fausse ou vrai? Bonne idée. Et puis Bordeaux-Saint-Etienne d'ailleurs, on n'oublie pas les Verts, adjugé mais loin d'être vendu. C'est une question et vous y répondrez. Puis avant 20h, il y aura évidemment les célèbres tirs au but. Toujours, 2-1, Nicolas Georgerot dans un instant au Parc des Princes. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
18h34, on fait le match avec Philippe Sanfourche, Xavier Barret, Stéphane Powels, Sébastien Tarago et le direct au Parc des Princes, Paris Saint-Germain Racing Club de Lens, Nicolas Georgerot, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Comment ça se passe?
Eh bien toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain face à Lens. Il reste un petit peu plus de 11 minutes dans le temps réglementaire. Neymar en première période à la 33e, Marquinhos à la 59e, Ganago qui était ensuite qui a permis à Lens de revenir à 2-1 juste après l'heure de jeu. Et d'ailleurs Franck Hez a fait entrer tout à l'heure Sotoka et Banza en sortant Kalimuendo et Ganago pour tenter quelque chose sur cette fin de rencontre où il y a beaucoup plus d'espace entre les lignes par rapport à la première période. On a vu quelques jolis gestes où le Paris Saint-Germain aurait pu se mettre un petit peu plus à l'abri, je pense notamment au coup franc de Neymar qui a bien été détourné par la doublure de Leca Farinez, le Vénézuélien qui est aujourd'hui dans le but, et puis cette ouverture de Neymar pour Draxler, mais le tir a été contré au dernier moment par un défenseur. 2-1, le Paris Saint-Germain reprend provisoirement la tête de la Ligue 1 en attendant Lille-Nice ce soir.
Et qui sera champion, c'est la question que je vous poserai dans un instant. Tiens, on prendra compte évidemment du résultat de ce soir et je vous livrerai mes savants calculs. Est-ce que c'est un PSG, Sébastien Tarago, Stéphane Pau, Xavier Barre et Philippe Sanfourche qui vous séduit ce soir sans Mbappé et à combien? 3 jours du match retour contre City? Philippe Sanfourche.
Il n'est pas là pour séduire le PSG ce soir, c'est un peu comme Manchester City qui devait faire le boulot cet après-midi pour s'assurer quasiment du titre de champion.
2-0 contre Crystal Palace.
Voilà, avec simplement deux joueurs de champ qui ont débuté face au PSG, Rodri et Cancelo. Donc on voit bien qu'on ne peut pas regarder ces matchs-là avec le prisme de la Ligue des Champions. Même si là, le PSG, il y a une obligation quand même de résultat dans la course au titre qui fait qu'il y a eu une rotation, mais on voit bien que qu'il y a des joueurs majeurs, Navas, Kimpembe, Marquinhos, Neymar, pour garder quand même une ossature. Et malgré cela, on sent bien quand même qu'il y a de la, il y a de la retenue et il y a pas beaucoup de fluidité dans le jeu. L'important, là, c'est le résultat. Ils ont essayé de garder ce 2-1. On sent que c'est pas sur ce match-là qu'ils vont fonder le renouveau du jeu pour aller défier Manchester.
8 changements, effectivement, dans l'équipe de Guardiola cet après-midi. Et les buteurs ont pour nom Agüero et Torres. Victoire, effectivement, sur la pelouse de Cristal. Sébastien Tarrago. Non, ce PSG.
Oui, bah, y a des fragilités. Lens a eu beaucoup d'occasions à mes yeux en première période notamment. Ça aurait pu mal tourner. Ça tourne pas mal pour l'instant. Et franchement, je suis d'accord avec Philippe. Pour le coup, il faut qu'ils gagnent. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont se mettre à bien jouer. Ils jouent pas bien depuis, plus d'un an. Ça va pas commencer aujourd'hui. Donc le fond de jeu, on en reparlera une autre fois. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a compris qu'il fallait courir au football. Et quand on ne court pas, on a des difficultés, même contre Lens.
Alors, je ne veux pas être provocateur, mais j'ai l'impression que ce n'est pas exactement ce que Philippe a dit. Il ne faut pas qu'il gagne, il ne faut pas regarder simplement, a-t-il dit, Philippe, ce match-là par le prisme du retour. Imaginez que le Racing Club de Lens mène devant le Paris Saint-Germain. Là, on aurait regardé ce match par le prisme du match retour, tout de même.
Oui, enfin, c'est quand même ce qu'on exprimait, et Sébastien et moi, c'est le fait que dans la course au titre de champion de France et également du fait qu'il y a le match retour et...
On n'en parle pas de la course au titre, Philippe. Vous nous avez dit dans les éditions précédentes d'En fait le match que ce n'était pas le but et l'objectif du Paris Saint-Germain, que c'était la Ligue des Champions. Donc on ne parle pas du titre, là.
Non, mais
j'espère qu'il n'a pas dit ça de manière aussi caricaturale, Philippe.
Si en l'espace de 3 jours, le titre s'envole et la qualification pour la finale n'est plus qu'un lointain souvenir,
c'est là, une vilaine saison.
On est sur une saison qui tourne au fiasco.
Stéphane Powels.
Non, mais c'est pas aujourd'hui, comme on dit, je vais pas répéter ce qu'ont dit les deux copains.
Non, aujourd'hui, faut aller jusqu'à 20h.
Ouais, et puis d'abord, on va pas juger sur ce qu'on voit aujourd'hui. Je vais être plus sévère comme Sébastien. On n'a pas vu un grand PSG. Moi, ça m'a pas fait rêver de beaucoup de matchs cette saison en championnat, je parle. Et donc aujourd'hui, je pense quand même que Lens aurait mérité un petit match nul sur ce qu'on a vu sur cette rencontre. Mais ça fait partie du foot. Moi, je trouve quand même, Philippe, qu'ils ont pris vraiment un coup sur la tête cette semaine et que ça se ressent un peu dans les attitudes, dans les comportements.
3-1 pour le Paris Saint-Germain avec bien. Verratti qui arrive côté gauche dans la surface de réparation, qui centre, qui trouve Icardi au second poteau, qui vient ajuster, qui met ce but. Donc Icardi qui en est à 6 buts sur ses 4 derniers matchs et qui arrive au second poteau alors que Neymar était resté à terre. Et Verratti a poursuivi l'action 3-1 pour le PSG.
Alors, même jugement.
Oui, j'ai le même jugement. Je n'ai pas vu un grand Paris Saint-Germain. Icardi joue. On en reviendra certainement tout à l'heure sur les changements de l'entraîneur du Paris Saint-Germain en Champions League avec la rentrée de Danilo.
Il y a un jeu.
Donc, mais ce pari-là. Mais je reviens par contre pour être moins sévère sur Paris. On fera les calculs en fin de saison. Quoi.
C'est Verratti qui est en jeu.
À mon avis, Verratti est en jeu.
Verratti est en jeu et devrait être refusé. Et moi, je trouve que cette équipe de Paris, avec le potentiel qu'ils ont, sont physiquement, psychologiquement faibles.
But annulé, effectivement. Monsieur Brizard, assez rapidement, a indiqué, il a dit au Lensois de remettre ce ballon derrière, puisque le but donc d'Icardi est annulé pour hors-jeu.
Xavier Barré, alors.
Donc je ne revois pas mon changement.
C'est l'équipe du PSG.
Moi, j'attendais pas grand-chose de ce match du PSG contre Lens, puisque leur objectif, c'est clairement la Ligue des Champions, on le sait depuis plusieurs années. Maintenant, il y a quand même un élément, c'est que s'ils sont éliminés cette semaine en Ligue des Champions, et pour le moment, ils n'ont pas la faveur du pronostic, qu'est-ce qu'il leur restera ? Il leur restera la Coupe de France et le championnat. Donc le championnat, en plus, ils ne sont pas en tête. Même si ce n'est pas perdu, il faut qu'ils gagnent. Voilà, c'est tout. Donc là, pour le moment, ils ont le résultat.
Alors j'avais prévu, on va changer un peu le conducteur, parce que j'avais prévu de vous interroger sur City PSG match retour après les informations de 19h et de continuer à parler de la Ligue 1 et donc de la course au titre, puisque 4 clubs sont concernés. Mais à 2-1, rien n'est fait. Donc dans les calculs que je vais vous proposer tout à l'heure,
vous-même, vous aviez misé sur une large victoire du PSG contre Lens.
La large victoire, sur les 3 points de la victoire.
Ah oui, les 3 points.
Sur les 3 points de la victoire. Donc par rapport au match de City, match retour mardi, ce sera donc sur l'antenne de RTL. La question que je voulais vous poser à 19h05 et que je vous pose à 18h41, est-ce que la remontada est possible ?
Bien sûr que c'est possible.
Sébastien Tarrago.
Vous êtes sérieux avec le terme de remontada ?
Complètement. Et pourquoi ? Il faut marquer 2 buts quand même, un gars.
Hey.
Alors la remontada, en fait, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est quand on revient de nulle part. C'est-à-dire que quand on a une situation qui est totalement désespérée,
c'est le cas.
Qu'il y a 3 ou 4 buts d'écart.
C'est pas désespéré, Christian.
Et qu'il faut
aller de nulle part.
Ah bon, d'accord. C'est... Face à City, qui est l'une, sinon la meilleure équipe au monde, être battu à domicile 2 buts à 1.
La meilleure équipe au monde.
Pour moi,
là,
la meilleure équipe au monde,
du Bayern,
c'est
le Bayern Munich. Le Bayern Munich est 50 fois au-dessus du Manchester City.
Ils ont perdu, mais il se trouve que pour moi, les Bavarois étaient vraiment les meilleurs cette
année. Là, on est sur l'histoire d'un match. On est sur l'histoire d'un match. Je pense que Manchester City, c'est une machine, c'est-à-dire que ça, il y a un précepte de jeu, que ça déroule, que vous êtes étouffé, et que sur 90 minutes, il y a un moment où il y a des situations compliquées. Maintenant, moi, j'ai pas vu un City différent de celui que j'ai vu l'année dernière, il y a 2 ans ou il y a 3 ans. C'est-à-dire que quand le PSG a été clinique avec de l'intensité sur la première période, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Comme quand Liverpool, saisons passées, était monté le curseur un petit peu, et ben Liverpool, c'était au-dessus de City. Le Bayern, c'est au-dessus de City. Le Barça, c'est au-dessus de City. Le Real, c'est au-dessus de City.
Si vous me cherchez, cher Philippe, vous allez me trouver. Ne parlons pas de remontada, mais alors parlons de miracle, de Paris, de quelque chose qui pourrait être impensable. Une équipe qui déjouerait les pronostics. Il faut croire en ses rêves. L'espoir fait vivre.
Faut mettre un but par mi-temps.
Non, mais on peut employer toutes les expressions pour imaginer et mettre en perspective.
En tout cas, on peut peut-être répondre à votre question.
Ben oui, mais
est-ce que c'est possible? Ah, pardon, Stéphane, vas-y. Non, mais juste pour revenir sur ce que dit Philippe, je n'ai pas la même lecture, c'est-à-dire que moi je pense vraiment que Pep Guardiola, et d'ailleurs Kevin De Bruyne l'a dit à l'interview, ils sont venus jouer comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis en situation de jouer le compte quand Paris t'en prend 3. Ils ont joué comme ça, et je signale quand même qu'en première mi-temps, tu n'as peut-être pas vu le même match, mais que même en étant mauvais City, puisque c'est les termes que vous tenez, qu'ils ont été mauvais en première mi-temps et que Paris est extraordinaire, ils ont une occasion de faire 1-1 avec Foden, hein, qui est tout seul. Exact. S'il fait 1-1 à la mi-temps, plus personne ne parle. Alors moi, je pense qu'ils sont venus faire le match qu'ils avaient envie de faire. Et on ne va pas revenir sur les buts, comment ça s'est passé. Moi, Philippe, ce qui m'interpelle vraiment, et je ne fais pas de l'anti-Paris en disant ça, bien sûr que tout est possible au deuxième match. Non, mais je vais juste répondre. Tout est possible sur ce deuxième match. Sauf que psychologiquement, quand je vois une équipe dans les attitudes qui lâche complètement après une heure, qui physiquement sont à la ramasse totale pour une grande équipe comme le Paris Saint-Germain, ça m'interpelle. Et je me dis que contre les Anglais à domicile, il va falloir faire autre chose si tu veux te qualifier.
Sébastien Tarragon.
Mais, oui, ça c'est sûr. Tu as raison d'être interpellé. Je suis interpellé comme toi. Et ce match m'a laissé pantois par rapport au génie de Mauricio Pochettino notamment, que l'on m'annonce depuis quelques mois. Mais il se trouve que le match retour, il peut être totalement différent. Et qu'on a bien compris quand même, et notamment à travers les deux prestations face au Bayern Munich, que parfois les résultats n'étaient pas du tout corrélés à la physionomie des matchs. Donc déjà, il faut beaucoup de modestie par rapport à ça. C'est une évidence. Encore une fois, à Munich, Paris est à mes yeux pas loin d'être nul. Et ils gagnent. Et à l'inverse, ils font un très bon match.
Une première bonne mi-temps.
Bon, en tout cas, une très bonne première.
C'est ça le problème du PSG. C'est qu'ils ne sont pas capables de tenir 90 minutes.
Quand il y a 2-1 pour Manchester City, je me dis quand même que si Neymar et Mbappé, notamment, sont dans un grand soir et qu'il y a une équipe qui reste soudée pendant 90 minutes, qui est capable de faire les efforts pendant 90 minutes, c'est possible. Je ne dis pas que je vous mettrai mon livret
bien
à
sûr, dessus, bien sûr.
Mais c'est très possible. On n'est pas dans le domaine de l'impossible, loin de là.
Et dans ce
cas, ne serait
moi,
pas un exploit incroyable.
Et dans ce cas, Xavier Barré, est-ce qu'on peut parler de remontada?
Non, pas vraiment. Moi, c'est ce que je croyais avant le match, en fait. Puisque le PSG avait su prendre à son propre jeu et le Barça et le Bayern, je me suis dit, dans la logique, ils vont aussi prendre le dessus sur Manchester City, puisque c'est 3 équipes qui jouent à peu près de la même façon, qui ont la possession, qui ont l'habitude de faire le jeu. Et donc, en procédant en contre, ils devraient y arriver.
La seule possession, c'est quand même pas du tout entre le Bayern et City, c'est pas du tout la même façon de se développer sur le plan offensif.
Eh bien, justement, c'est là où j'ai vu un Manchester City beaucoup plus prudent et un Pep Guardiola qui a retenu les leçons de ses précédents échecs. Il ne faut pas oublier qu'il a joué avec seulement 2 attaquants. Parce que De Bruyne avançante, non, De Bruyne était au milieu de terrain, puis après il y en avait un qui, parfois Bernardo, parfois un autre qui venait prendre
l'espace. C'est une équipe qui joue sans avant-centre et beaucoup d'observateurs s'en offusquent.
Oui, mais ça c'était le système du Barça à une époque, c'était le système de l'équipe d'Espagne qui a été championne d'Europe et championne du monde, donc c'est pas un système qu'on découvre, simplement ces dernières années, le Man City de Pep Guardiola jouait systématiquement avec Agüero ou Gabriel Jesus avant-centre. Là il joue sans ni l'un ni l'autre.
Il faudra quand même que vous me parliez du craquage mental ou physique des joueurs du Paris Saint-Germain et du management, Sébastien Tarragó l'a esquissé,
il a raison.
De Mauricio Pochettino. Le Parc des Princes avant la publicité, Nicolas Georgerot.
Oui, on va entrer dans le temps additionnel et Neymar est à terre alors qu'il y avait une contre-attaque pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens autour de M. Brizard pour réclamer une faute et donc un pénalty où Neymar allait se retrouver peut-être en duel en face à face avec Farinez, un carton jaune et donné par Monsieur Brizard, et Neymar est toujours, je suis en train de regarder, est toujours à terre, peut-être qu'il va se relever. En tout cas 2-1 pour le PSG dans le temps additionnel, alors que Kean et Rafinha vont aussi entrer pour les derniers instants.
On tourne une page de publicité, derrière la publicité le craquage physique ou mental du Paris Saint-Germain, le management remis en cause, celui de Mauricio Pochettino, à Mbappé qui face à City n'a pas tiré une seule fois au but. Que s'est-il passé donc dans la tête des joueurs? Ne me parlez pas de démotivation quand on joue un quart de finale aller de Ligue des Champions. Ne me parlez surtout pas de motivation. Parlez-moi d'autre chose après la publicité.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La suite d'On fait le match, le Paris Saint-Germain au cœur des débats en compagnie de Philippe Sanfourche, Xavier Barré, Stéphane Powell, Sébastien Tarrago et au Parc des Princes, un petit événement en soi, la sortie de Neymar, Nicolas Georgerot.
Oui, puisque je vous parlais de quand il était tombé dans la surface de réparation et qu'il était dans ce duel avec Klose, il s'est relevé, Marquinhos a pris un carton jaune pour contestation et Neymar qui est sorti, ainsi que Draxler pour les entrées en jeu de Kean et de Rafinha pour les derniers instants de cette partie 2-1. Neymar qui a marqué en première période, Marquinhos également en seconde, lui, et il nous reste 30-40 secondes dans ce temps additionnel.
Nicolas qui nous appellera pour la validation de ce résultat, j'étais un peu ironique sur la sortie de Neymar, mais en soi, et Sébastien l'esquissait tout à l'heure, le management de Pochettino. Est-ce que Sébastien, vous englobiez justement les deux stars, Mbappé
alors,
et Neymar?
J'englobe pas Neymar parce que tu ne peux pas le sortir, c'est comme ça, c'est le foot qui est devenu ainsi, ce serait très long d'en discuter, moi j'aborde le football...
Ce serait intéressant d'en discuter.
Oui, oui, mais ce serait très long, donc j'aborde ce qui est devenu le football. Et
j'aimerais quand même, Sébastien, que vous nous en parliez un tout petit peu.
Mais vous savez très bien aujourd'hui qu'un entraîneur qui sort Neymar à la 75e minute d'une demi-finale allée de la Ligue des Champions, il peut faire ses valises. Voilà, c'est tout, c'est fini.
N'importe quel entraîneur.
Mais n'importe quel entraîneur. Ouais, là, éventuellement, Ligue 1, si Guardiola était au PSG, peut-être. Mais j'en suis même pas sûr. Mais c'est comme ça, c'est la réalité du football aujourd'hui, hors circonstances exceptionnelles. Et pour moi, une des erreurs majeures de Mauricio Pochettino, en dehors du fait qu'il dormait pendant la seconde période, c'est que Kylian Mbappé était blessé. Il n'était plus en état de jouer au football de très haut niveau. Il a passé sa deuxième mi-temps à se toucher la cuisse, au mollet.
Il était blessé. Est-ce qu'il était vraiment rétabli?
Je ne sais pas. En tout cas, il n'était pas prêt. Moi, je pense qu'en première période, il était encore prêt physiquement à jouer ce match. En seconde période, il ne l'était plus. Et donc là, à un moment, même si Kylian Mbappé partage ses responsabilités parce qu'il aurait dû sortir, l'entraîneur, à un moment, il doit intervenir. Mais de la même manière que l'entraîneur doit intervenir quand vous prenez l'eau physiquement, que vous êtes étouffé, qu'il ne se passe plus rien, que vous n'êtes plus capable
terminé,
de
Nicolas.
Récupérer un ballon.
Oui, terminé donc sur cette victoire de 2-1 du Paris Saint-Germain face à Lens, but de Neymar à la 33e, son 7e but en Ligue 1, Marquinhos 58e, Ganago à la 61e, match décousu. Mais c'est une victoire qui permet au Paris Saint-Germain de reprendre 2 points d'avance provisoirement en attendant le Lille-Nice de tout à l'heure, et bien les Lensois eux affronteront Lille dans le derby la semaine prochaine et sont toujours au coude à coude avec Marseille et Rennes pour la 5e place.
Décryptage, commentaire, réaction à 20h dans RTL Foot, Nicolas Georgerot. Donc c'est un vrai problème, je comprends.
Non, je voulais juste finir sur une chose. Moi j'aime bien quand les analyses ne sont pas faites en fonction des hommes. On aime bien machin, on n'aime pas truc, ouais. Non, si moi je vous dis que si Unai Emery avait dormi jusqu'à la 80e minute et l'expulsion de Gay pour faire un changement. À l'époque, quand il était au Paris Saint-Germain, il se serait fait massacrer. C'est tout. Eh ben, et oui, mais moi je constate que Mauricio Pochettino en ce moment, il peut tout faire et même des erreurs considérables et tout passe.
Sauf sortir
tout,
Neymar.
Tout passe.
Sauf
sortir mais ça, c'est autre chose. Parlons-moi.
Mais
Neymar, vous pouvez pas le sortir. C'est votre meilleur joueur avec Mbappé. Il peut vous sortir un coup de génie. Arrêtons avec ça. Mettons-le de côté. En revanche, quand vous prenez l'eau, comme vous avez pris l'eau en seconde période et que vous n'agissez sur rien. alors que vous avez quand même du matériel. Alors,
comment vous agissez?
Mais Danilo, à un moment, on m'a expliqué qu'il avait fait deux grands matchs contre le Bayern de Munich. Ne me dites pas que dans ce cas-là, il ne peut pas faire du coaching si au milieu de terrain, vous prenez l'eau.
Draxler
était en phase ascendante. Enfin, vous faites quelque chose quand même.
Il y a deux choses, et dans un autre angle. Mais bien sûr que moi, je trouvais complètement en dessous l'entraîneur parisien où il est là, amorphe sur son banc.
Ça veut pas dire qu'il est nul, hein ?
Il ne bouge pas. Je comprends pas. Toutes les semaines, je vous écoute même quand je viens pas. Icardi, formidable. Le coach parisien, il a un tel effectif qu'il va devoir faire des choix difficiles pour faire son équipe. Il fait une sélection, il fait pas de changement, les mecs sont cramés. Moi, je pense que, comme Sébastien, que le petit Mbappé était physiquement, à mon avis, plus apte en deuxième mi-temps pour jouer. Neymar, je le sors parce qu'à part faire ses gris-gris, faire des roulades, alors même s'il peut faire des coups de génie, je le sors. Non. Et alors, ce que je comprends pas, il va falloir que vous m'expliquiez, et je ne suis pas le seul.
Stéphane,
le
choix, tu fais rentrer. Franchement, c'est quelque chose, c'est à l'ancienne. Franchement, je suis à l'ancienne, et on peut pas sortir Neymar. Oh non,
mais
quoi.
Mais enfin,
on est mené 2-1.
Mais Christian, Platini et Maradona.
Mais dans ce match, Platini, on l'a sorti quand il était en équipe de France sous les colibés au Parc des Princes du public.
Une fois,
il est sorti.
Une fois en 87.
J'ai pas fini.
Je pense vraiment que le choix de Danilo. Je ne comprends pas faire entrer un défenseur central et un milieu de terrain récupérateur à ce style de joueur à ce moment-là du match. Alors on me dit, ouais, mais ils sont à 10 contre 11, il a peur. Mais à quoi mettre un entraîneur et t'as pas un peu les coronets?
Mais les coronets, c'est pas la 90e minute dans le match.
Ah, t'avais peur d'en prendre un 3e et un 4e. Eh ben alors tu mérites pas de gagner la Champions
League. Mais si tu prends le 3e à domicile,
tu mérites pas de gagner la Champions League. Déjà, parce qu'il y a un truc en plus qui est malhonnête, c'est que j'ai vu tous les observateurs qui ont chargé Navas. Quel scandale! Bien sûr que sur le premier but, on peut en discuter, qu'il est peut-être un peu fautif. Il vous a fait gagner, il a fait Jésus-Christ au Bayern de Munich, il vous en a sauvé 5-6.
Mais Stéphane,
il y a un moment, il faut s'objectif. Neymar n'a pas touché un ballon, il faut le dire. Kylian Mbappé est rentré avec un boulard sur le terrain. Quand ça a été mis 1-1, ils ont regardé le sol comme un petit garçon. Il y a un moment, ils ont un problème psychologique. Ils ont un problème physique. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut quoi? Il faut qu'ils se soignent. Il faut
qu'ils se soignent. S'en fout, je dis, c'est n'importe quoi. On parle d'une équipe qui a sorti le Barça et le Bayern. Ils ont un problème psychologique.
Et si tu fais sortir comme City, tu vas me trouver quoi comme argument, Philippe?
Mais tu peux pas dire ils ont un problème psychologique.
Mais ils ont un problème psychologique. Il y a peut-être un problème psychologique, c'est que quand on est battu cette saison 8 fois à domicile, dans les têtes, il se passe quelque chose. Non, c'est pas moi qui le dis,
c'est un constat.
Arsène Wenger qui le dit.
Oui, et puis il sait de quoi il parle parce que ces dernières saisons
non,
à Arsenal.
Non, c'est tellement facile. Dans une émission sérieuse, avec des débatteurs qui sont des chroniqueurs et des journalistes, on se doit aussi d'entendre l'opinion d'Arsène Wenger.
Non, mais c'est exactement ce que disait Sébastien à propos de Mauricio Pochettino, c'est-à-dire qu'à partir où M. Wenger, qu'on respecte évidemment éminemment par rapport à l'ensemble de sa carrière, et à partir du moment où M. Wenger a émis une hypothèse, le monde s'arrête, quoi.
Mais Philippe, tu émets une autre hypothèse, le monde ne s'arrête pas non plus. On t'écoute, mais on peut écouter Arsène Wenger.
L'aspect mental, excusez-moi, mais c'est quand même difficile à établir. Surtout de Doha, ou de Zurich, ou de je ne sais où. À un moment, là, si vous n'êtes pas dans le groupe, si vous n'avez pas tous les relais nécessaires, c'est très difficile. L'aspect physique, pardon, il est évident. À un moment, ils ont explosé physiquement.
Objectivement.
Donc, Arsène Wenger et
pourquoi ne pas mettre en avant l'aspect mental? Pourquoi? Simplement pourquoi?
Mais pour le coup, je suis pas souvent d'accord avec Philippe sur l'analyse du PSG.
Pourquoi?
Mais pourquoi il a tout résumé. Ils ont battu, qu'on le veuille ou non, avec les faiblesses de ces équipes à ce moment-là. Le FC Barcelone, le Bayern Munich, on va pas me dire que ce sont des petits garçons qui ont peur de ces matchs. Ça j'arrive pas à y croire.
Et surtout, ils ont construit ces victoires-là sur un parcours la saison passée qui était ce qui était par rapport au format, mais qui les a quand même emmenés jusqu'en finale. Donc en fait, ils sont mentalement programmés pour
prendre de ces expériences. Le format était différent, dans des conditions différentes.
Mais Christian, la pression est la même. Quand vous jouez une finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, la pression est la même. Et quand vous sortez de ce match où vous avez constaté que vous étiez un peu en dessous dans plein de domaines et qu'au final vous perdez 1-0, hein, toutes les autres équipes en ont pris 5 contre le Bayern l'année dernière. Et derrière, ils reviennent, construisent Manchester United, ils étaient dans le dur, ils ont été gagnés à Old Trafford 3-1.
On
ne peut pas les oublier, c'est
le problème.
Donc mentalement, on
ne
peut pas dire qu'ils sont.
Le problème n'est que physique.
Non. C'est un ensemble de choses, c'est jamais mental.
Alors vous me dites que c'est pas mental. Vous me dites que c'est pas
physique. Mais c'est physique.
Vous me dites que City n'est pas la meilleure équipe du monde. Alors il est où le problème?
Mais c'est un ensemble de choses. Les choses ne sont pas basiques, Christian, vous êtes bien d'accord?
Non, mais je suis là pour. C'est-à-dire que,
moi je pense que c'est principalement physique, mais quand physiquement vous êtes un peu moins bien, et ben vous décrochez aussi mentalement.
évidemment. Et parfois c'est dans le sens inverse. C'est logique, il y a une corrélation entre tout cela. Mais il y a quand même quelque chose de très intéressant dans le petit film que nos confrères d'RMC Sport ont produit après le match, à travers parce qu'ils ont les images et donc le son aussi. Il y a notamment Ganagay qui, lorsqu'il se fait expulser, dit on se fait danser, on se fait marcher dessus, on se fait tourner autour depuis 20 minutes. Il y a personne qui bouge, il y en a ras le bol. Donc lui, il a ce sentiment
là, un peu dans la tête, mais, là, quand
oui,
même,
mais c'est pour ça que c'est pour ça.
Et puis il y a autre chose dans la tête. Quand vous voyez dans ce fameux film Neymar ou Mbappé ou Verratti se faire backer, qui est une vraie victime, c'est lui le responsable de tous les maux. Mais là, c'est pas physique
Mais
instillez le poison. J'ai été
profondément choqué par l'attitude de Neymar avec backer, qui en plus a réalisé une bonne première période. Et c'est scandaleux parce que quand vous avez un garçon qui est moins fort que vous dans votre équipe, et ben vous l'aidez et vous ne l'enfoncez pas, évidemment.
On va s'accorder quelques minutes derrière les informations de 19h pour continuer de débriefer sur ce match, et mettre en perspective le match retour et ensuite parler de la Ligue 1. Je vous rappelle que le PSG a battu l'équipe de Lens cet après-midi, ce soir, tout à l'heure, sur le score de 2-1. Les réseaux sociaux, Baptiste Durieux sur le compte @RTLFoot.
Absolument, on se projette sur le match retour face à City. Deux choses, nous dit Jérémy, non seulement la Ligue des Champions nous a montré, et ça très récemment, que tout peut arriver, que les sérieux au foot sont monnaie courante, mais surtout si une remontada se qualifie après un 2-1, bah je remonte à blier, nous dit Jérémy, pardon. Et message d'Hugo aussi, Paris a plus d'expérience que Manchester City en Ligue des Champions, c'est un fait. Paris a aussi deux joueurs qui peuvent tout changer, Neymar et Mbappé. Du côté de City, il n'y en a pas. Paris est très bon à l'extérieur, Paris a sorti le Barça et le Bayern, et surtout Paris a la baraka, et ça Guardiola ne pourrait rien y faire. Et puis message d'Arnaud qui est un petit peu critique, il nous dit cette capacité à tout remettre en question après une défaite, vous êtes extraordinaire.
La publicité, les informations de 19h.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
La suite dont refait le match à 20h, 20h, 23h, RTL Foot avec toute l'équipe d'Eric Silvestro, Xavier Demer, Giovanni Castaldi, Raymond Abou et Quentin Vasselin, l'intégralité également, pas seulement, mais l'intégralité, pardonnez-moi, du match entre Lille, le leader du championnat, et l'OGC Nice. La suite dont refait le match avec Philippe Sanfourche pour RTL, Sébastien Tarrago, la chaîne L'Équipe, le spécialiste du Benelux, Stéphane Powell, pas seulement, c'est un peu réducteur,
mais je vous laisse dire.
Les journalistes sont forcément
et
toujours.
Et vous oubliez TV5 Monde.
Et TV5 Monde, vous avez bien raison. Dirigé par monsieur
Yves Bigot.
Et Xavier Barret, je montre une nouvelle fois, et on en parlera tout à l'heure aux caméras dont refait le match, puisque l'émission est interactive via l'application RTL, via le site internet RTL.fr. Le dernier opus de Xavier Barret, le guide de l'Euro du 11 juin au 11 juillet 2021. Toutes les équipes, tous les joueurs, toutes les stats, le calendrier et 60 ans d'histoire de la compétition. On en parlera tout à l'heure. C'est aux éditions Solar Édition pour être
exactement.
Franchement, les amis, je suis un peu déçu. Parce que
vous êtes souvent déçu, Christian.
Surtout quand vous êtes là.
C'est vrai. Mais il faut pas m'inviter.
Mais
il y avait personne. Il y a un problème de planning.
Je sais. On n'a pas parlé Ligue 2.
On
n'a pas encore attaqué le sujet Ligue 2.
Je sais.
Vous êtes en si grande difficulté.
Laquelle?
Pour trouver des gens pour venir vous voir.
Pour avoir des réponses d'experts, ce soir, je suis en difficulté.
Allez-y.
Car le problème du PSG.
Vous n'acceptez pas la nuance, Christian.
Ah non. Je déteste la nuance.
Eh ben oui, mais c'est la vie, la nuance.
Alors, je vais vous dire une chose. J'aime non seulement.
Par exemple, vous n'êtes pas forcément ni bon ni mauvais ce soir, par exemple.
Non,
vous voyez,
ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Écoutez-moi bien, Sébastien Tarrago. Je n'aime pas la nuance. J'aime les avis tranchés. Je n'aime pas le politiquement correct. Et je déteste la langue de bois. Et quand je vous connais, et vous, plus personnellement, qui n'avez pas jamais votre langue dans sa poche ou dans la poche.
Oh que si.
Je pense que vous prenez quelques précautions en vue du match retour. Enfin,
je vous ai dit ce que j'avais à dire sur Mauricio Pochettino, dont je m'étonne qu'il soit à ce point épargné par tout. Je pense ne pas avoir été très tendre avec lui, puisque j'ai dit qu'il dormait en seconde période.
Non, c'est rien, ça.
C'est l'écume.
C'est pas grand-chose.
Pour autant, je ne pense pas que Pochettino, ce monsieur, est un mauvais entraîneur. Vous voulez vous attaquer à M. Macron ?
Ah non, ce sont les observateurs politiques.
Vous voulez sortir Neymar à la 55e minute, c'est votre droit.
Non, mais
je suis pas d'accord.
Non, ce qui est hallucinant. Non, mais parce que là, c'est une attaque.
D'accord.
Neymar, sur le plan du jeu, ne donne pas grand-chose.
Vous me dites que Mbappé est blessé,
ah, donc il joue sur une seule jambe. Ça, c'est sûr.
Vous voyez ces deux joueurs plus Verratti, parce que ça, je veux qu'on en parle, pourrir Becker. Et
surtout
vraiment,
Neymar.
Je suis très libre de parler de Becker, puisque avant même le match, coup d'envoi, j'ai vu Becker. Non, tout, mais pas Becker.
Mais, pas si
mais une
bon
fois,
ça.
Mais non, mais c'est pas le problème. Une fois qu'il est sur le terrain, une fois qu'il est sur le terrain, et vous êtes l'entraîneur en chef, et vous avez des coéquipiers qui pourrissent.
C'est honteux, bien sûr.
Honteux. Vous prenez vos responsabilités.
Non, mais d'abord, c'est honteux. On va pas y revenir. On a parlé de cette attitude-là. Et moi, je ne comprends pas, Philippe. Ce n'est pas toi que j'attaque, mais les observateurs généralement.
Tu me regardes dans les yeux.
Oui, mais je te regarde dans les yeux parce que je t'aime beaucoup, parce que tu as de beaux yeux. Mais
parce que tu représentes les observateurs.
Tu représentes les observateurs.
Imagine l'hommage.
Non, je vais aller au bout, Monsieur Sébastien Tarrago. C'est que Philippe représente ces fameux observateurs qui aiment beaucoup le Paris Saint-Germain et qui ont du mal.
Non,
vous suivez, mais vous l'aimez beaucoup.
Non, il suit le Paris Saint-Germain et en toute objectivité.
Voilà. Et donc je voudrais aller dans cette objectivité.
D'accord.
Oui,
évidemment.
Et je voudrais.
Ça va de soi.
Quand il faut critiquer Pochettino.
Oui.
Philippe Sanfourche sait le faire.
Oui,
j'en doute pas.
Monsieur Olivier,
j'entends pas tout ce que.
J'entends pas.
Non,
j'ai pas fini.
Non,
mais j'ai pas fini. Monsieur Olivier,
on est d'accord.
Écoutez, monsieur le bâtard.
Oui,
le bâtard.
Oh là là, ça devient vilain.
Surtout pas.
Non, en plus, je ne suis pas bâtard, je suis belge. Vous mélangez tout. Les bâtards, c'est le pays.
Vous savez qu'un jour, sur.
Mais là, on s'éloigne.
Sur le Tour de France, montée de l'Alpe d'Huez, c'est toujours très énervant, l'Alpe d'Huez, parce qu'il y a toujours. On met en péril la santé
il y a trop de public, c'est ça. Vous voulez du huis clos.
Un jour, je me suis énervé après dans le virage des Néerlandais en les traitant de bataves. Ils ont entendu Batavus. Et ça, ils ne l'ont pas supporté.
Non, non, ils supportent pas. Ils ont un égo surdimensionné, les Pays-Bas.
Alors, ne dites jamais Batavus.
Non, juste pour terminer, mon cher Philippe, parce qu'on est là aussi pour se taquiner, parce qu'on aime le foot et c'est du débat et de l'humeur surtout. Mais juste vous dire que vous, les observateurs, et qui aimez beaucoup, je dirais avec beaucoup d'empathie, le Paris Saint-Germain, je suis atterré qu'on ne peut rien dire, jamais rien dire sur l'attitude des joueurs du Paris Saint-Germain, notamment psychologiquement. Je pense qu'ils ne se soignent pas tous comme ils devraient se soigner. Je pense qu'ils s'y sont cramés après 60 minutes de jeu. Quand on a un staff sportif, un staff médical comme le Paris Saint-Germain, il faut quand même parfois se poser des bonnes questions. Et quand je vois certaines arrogances de certains joueurs et certains comportements de certains joueurs, ce n'est pas normal qu'on se comporte comme ça en demi-finale de Champions League quand on joue contre City à domicile. Je suis désolé, vous ne voulez pas l'entendre.
Faut verbaliser un peu ce que vous dites là.
Verbaliser
l'arrogance.
Au début du match, je vais vous le dire, moi, ça va déplaire. J'ai vu M. Mbappé et d'autres avec un petit sourire, une espèce de force, de puissance, d'arrogance. Et après une heure de jeu, quand on est balayé par City, les mecs regardent leurs chaussures, ils engueulent leurs coéquipiers comme un malpropre. Et ça ne va pas. Il faut avoir l'arrogance tout le temps, même dans la défaite. Même dans la défaite, il faut avoir une arrogance avec de la classe et de la dignité. Pas comme ils se comportent maintenant. Ce sont des petits. Ils se sont comportés comme une petite équipe en deuxième mi-temps.
Xavier Barré.
Non, mais je trouve que Stéphane Powell, c'est un peu excessif, comme souvent. Non, mais attendez.
Vous exagérez. Et j'ai encore été gentil. Le PSG, je te trouve dur, Xavier.
Qu'est-ce qu'on disait du PSG après les performances contre Barcelone et contre le Bayern? Effectivement, c'était pas totalement maîtrisé. La qualification au match retour contre Barcelone, elle est heureuse. Il faut vous rappeler que Messi rate un pénalty. Contre le Bayern, ils ont été bons en première période, mais en deuxième période, ils ne sont pas là. Et le Bayern revient, ils ne sont pas loin de renverser la tendance, il ne faut pas oublier. Donc, on est dans du très haut niveau dans la Ligue des Champions, les équipes sont très proches les unes des autres. Là, cette défaite contre Manchester City, c'est quand même quoi? C'est quand même Keylor Navas qui regarde le ballon de De Bruyne qui arrive dans son but. Alors, effectivement, il n'est pas le seul responsable, mais c'est le principal.
C'est comme les attaquants du Bayern qui ont vu en danger
Kimpembe et Paredes qui s'écartent vraiment maladroitement et le ballon qui passe.
Pas de chance.
Donc
vous minimisez.
Il saute et puis il donne un petit coup de hanche et ça fait un trou.
Et c'est d'ailleurs ce que dit un peu Guardiola.
Franchement, ça se joue.
Il le dit dans une vidéo.
Ça se joue à peu de choses.
Il parle à la troisième personne, mais pour relativiser également les deux buts marqués par son équipe.
Ça se joue à peu de choses.
Oui, mais tout se joue à peu de choses.
On est d'accord.
Et tous les buts.
Donc c'est pour ça que tirer derrière des enseignements en disant c'est des petits bonhommes parce que ils regardent leurs chaussures, je sais pas trop quoi, où ils rentrent en bombant le torse. On est dans du sport, il y a de l'intox.
On peut dire des choses quand même.
Mais on s'extasie quand il y a des champions olympiques américains qui arrivent en roulant des mécaniques ou Usain Bolt qui est là à faire le beau. Et quand c'est Kylian Mbappé.
Ouais, mais même Usain Bolt, il est champion olympique. L'équipe de, et le Paris Saint-Germain n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions.
Bah, ils étaient en finale quand même.
Bah,
en finale. Ils sont vice-champions d'Europe.
Ah, donc on peut rien dire.
C'est-à-dire que quand ils, effectivement, quand ils battent le Barça ou le Bayern, on se félicite du fait qu'ils les ont regardés dans les yeux et que pour une fois, l'équipe française a pas regardé ses pompes et a essayé de jouer un match avec ses arguments. Et puis quand ça marche pas, alors tout de suite, on inverse l'analyse et ça devient des
mais
moins
c'est
carrières.
Un constat, Philippe.
Je suis désolé.
C'est quand même bien les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont engueulé leur Becker. C'est pas inventé, quand même.
C'est
pas
inventé.
Je voudrais qu'on aille sur ce terrain-là.
Allons sur ce terrain-là. Et là, je vais te donner satisfaction. Et on va pas dire que je suis dans à caresser dans le sens du poil. Ça, c'est un problème endémique. C'est quelque chose qui, quand vous avez des retours de ce qui se passe sur les entraînements au Paris Saint-Germain, c'est, en fait, tu es en match comme tu es à l'entraînement. Et à l'entraînement, ça se passe comme ça. Dans les petits jeux, eh ben oui, les Neymar, les Mbappé, les Di Maria, toute cette petite casque des grands talents.
Et les Verratti.
Se foutent régulièrement de la tronche des joueurs qui sont moins bons.
Et les Verratti. Quelle belle mentalité. Quelle belle mentalité. Bravo.
C'est clair. Et ça, effectivement, c'est quelque chose contre...
Bah ça montre bien l'attitude.
Il va falloir travailler.
Eh bien, tu vois ce que tu dis, ça, là, on parle, ça se passe à l'entraînement, c'est dramatique.
Qui est une proie facile, mais un joueur, par exemple, comme Ander Herrera, qui certes n'aura jamais Ballon d'Or et qui n'est pas un monstre de technique, et qui a quand même fait quelques années en Premier League et à Manchester United, même si ce n'est pas les plus grandes années de Manchester United, eh bien, Ander Herrera, il lui arrive aussi d'être raillé, d'être moqué par ces joueurs-là.
Là, pardon, c'est ça, donc, du point de vue,
Philippe. C'est ça, c'est un vrai problème.
Là, tu dis qu'il va falloir travailler là-dessus. L'éducation, à un moment... On ne peut plus travailler dessus à 29 ans. Pour
c'est tard. Ça s'appelle le syndrome du boulard.
C'est qu'il y a dit Maria Mbappé. Là, pardon, mais c'est un problème de purement humain. À un moment, encore une fois, tu te bagarres avec les gens qui sont de ton niveau. Mais ceux qui sont moins forts que toi, tu les aides. C'est la vie, c'est tout le temps comme ça. Et les gens qui se comportent autrement, je préfère ne pas les qualifier, que ce soit dans le foot ou en dehors. Voilà, c'est tout. Tu tends la main aux gens qui sont moins forts que toi.
Enfin, on révisera peut-être notre jugement global depuis 18h30, samedi prochain, une fois que le Paris Saint-Germain...
Mais c'est pour ça, c'est vous, Christian, qui voulez que le Paris Saint-Germain soit déjà aligné.
Non, on peut, soit déjà éliminé. C'est pas le cas, puisque je vous dis la remontada, regardez, c'est écrit, la remontada est-elle possible? Je vous tends des perches pour me dire, oui, la remontada est possible. Et dans le jeu, vous avez sans fourche qui me dit, mais ne parlons pas de remontada, comme si vous marquez deux buts face à City.
La remontada, ça induit le fait que c'est impossible.
Qu'ils aient... Christian.
Puisqu'une remontada, par définition, c'est quelque chose qui arrive une fois tous les jamais, qui est exceptionnel.
Quelle question aurais-je dû poser?
La qualification est-elle encore possible?
Gentil.
Je sais bien que les mots ont un sens, mais là, vous...
Non, mais juste une chose, sérieusement, c'est que on peut constater qu'il y a eu des erreurs sur ce match-là de la part du Paris Saint-Germain, de la part du staff du Paris Saint-Germain. Mais on peut quand même pas oublier qu'il y a quelque chose qui s'appelle un adversaire. J'ai l'impression qu'on analyse les matchs uniquement à travers une équipe.
Mais c'est pour ça que j'ai dit que City était la meilleure équipe du monde et que je me suis fait reprendre de voler par Philippe Sanfourche.
Et Pep Guardiola, par moi, j'avoue. Tactique. Moi, pour moi, c'est Bayern. Mais bon.
19h16, publicité et ensuite, qui sera champion?
Ben vous le savez, donc
J'ai fait des calculs. Hein.
Moi,
j'y ai passé la nuit. J'y ai passé une partie.
Vous avez des petits yeux.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Qui sera champion? Qui pour les places européennes? Qui pour la descente? On refait le match jusqu'à 20h, toujours avec Philippe Sanfourche, Xavier Barret, Stéphane Poels et Sébastien Tarago. Il nous reste, moins le Paris Saint-Germain, 4 journées à disputer. J'ai donc pris le tableau de tous les adversaires et de tous les matchs des 4 mousquetaires, n'est-ce pas? Je veux parler dans l'ordre ou le désordre. Je vous donne le désordre exprès pour brouiller les pistes. Monaco, le Paris Saint-Germain, Lille et Lyon. J'ai regardé les résultats des saisons précédentes, l'état de forme des équipes et je me suis basé sur 3 critères. 3 critères très très simples. 1. Sur les 3 dernières journées, le nombre de points susceptibles d'être pris pour des... par ces équipes qui sont en forme. Si elles sont un peu moins en forme, je leur accorde simplement un point, c'est-à-dire le résultat nul. Ouf, on est d'accord? On est d'accord sur le...
J'essaie de comprendre.
Même l'Eurovision, c'est plus facile.
Et sur le troisième critère, il faut...
C'est la nouvelle formule de la Ligue des Champions.
Non, je me répète. Les matchs... Bon, je vous donne un exemple. Lille-Nice, c'est ce soir.
Ouais.
C'est 3 points.
On est d'accord. C'est 3 points pour Lille. Bah, enfin, mais oui. Par rapport. Attendez, j'ai travaillé. Par rapport aux résultats précédents, l'état de forme, les compositions enfin,
quoi,
des équipes.
Ils ont fait quoi, Lille, à domicile, la dernière fois ?
Ils ont fait un nul et une défaite, les deux.
D'accord, mais enfin, à un moment donné.
On peut penser qu'ils
ont fait. Alors, je vous donne un autre exemple. Restons sur Lille, par exemple.
Est-ce que psychologiquement, ils ne sont pas faibles ?
Je vous donne un autre exemple.
Non,
la journée suivante, Lens-Lille. Bien, j'ai regardé
c'est un derby,
les
c'est
enjeux.
Compliqué.
C'est un derby. Il y a l'Europe pour Lens. Résultat nul. C'est-à-dire qu'aucune des quatre équipes ne perd. Au mieux, elle gagne. Au pire, elle fait match nul. On est d'accord ? Ce qui nous donne Lille.
Allons-y, on note. Allez-y.
Alors,
Lille, pas compris, c'est pas Sarago,
Lille est parti à Lille part ce soir avec 73 points. Plus 6 certains, dont un nul. Donc un point. Plus 3 ce week-end, ça fait 83 points. 83 points pour le LOSC.
D'accord.
Le Paris Saint-Germain, 72 points, plus 6 certains, plus un nul, plus les 3 d'aujourd'hui, 82 points. Mm-hmm. Monaco, 71 points, plus 6 certains, dont un nul, plus 3 ce week-end, 81 points.
Il n'y a rien qui change alors.
Si, bah oui, non, mais ça, c'est pas de ma faute.
Et l'OL,
voilà, donc en gros, Lille laisse des points contre Lens, le PSG laisse des points contre Lille.
Je peux venir dans les détails après.
Oui, alors,
Lyon, 67
temps,
points,
jusqu'à 20h.
Plus 6 certains, plus 1 nul, plus 0 ce week-end, Lyon. 0 ce week-end.
Donc ils font 7 sur 12.
Ah, contre Monaco, ils prennent pas.
Ça fait 74 points. Ça fait 74 points.
J'ai noté.
Lille, champion, 83 points. Le PSG, deuxième, 82 points.
Monaco,
troisième, tour préliminaire de Ligue des Champions, 81 points. Lyon, 74 points.
Ouais, rien qui change.
Pour les places européennes, la fameuse conférence Europe.
On attend tous.
Voilà. Ouais. Eh bien, alors là, je vous passe tous les détails, mais j'ai fait le même mode de calcul. Le même mode de calcul. Eh bien, ce sera Marseille avec 63 points, devant Rennes, 62 points, et Lens qui va décrocher 61 points.
Bon, on arrête.
On a invasionné
chez nous.
Moi, j'ai noté vos pronostics.
Lille, ça vous va, champion de France ?
Alors, moi ça va, mais ce que je remarque, c'est que sur les trois premiers, en fait, vous faites le même calcul. Ils prennent 10 points sur 12 possibles.
C'est possible.
Donc, ça veut dire que chacun fait un match nul. Donc, Monaco, peut-être qu'ils ne vont pas gagner contre Lyon, on verra. Mais Lille, vous dites le match nul contre Lens, mais le PSG fait match nul contre qui ?
Rennes.
Rennes ? Ouais. Bon. D'accord. Bon, c'est vrai que Rennes joue pour l'Europe, mais
allez-y.
Mais sur Rennes, ce que montre Rennes.
Un autre résultat.
Non,
mais c'est intéressant. Mais ce qu'il y a, c'est que là, on est dans quelque chose de très rationnel. Comme si, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la dimension historique, émotionnelle.
Fatigue.
Oui. Moi, j'aurais tendance à croire quand même que lorsqu'il y a une bagarre comme ça au très haut niveau pour aller chercher le titre dans les dernières encablures. On voit bien que là, par exemple, même le PSG qui n'est pas bon aujourd'hui, qui fait un match moyen, ils vont chercher 3 points. Parce qu'il faut aller chercher 3 points. Parce que, voilà. Moi, après, je vais peut-être me tromper, mais quand je vois ce que Lille a été capable d'aller chercher au fond de lui pour aller dans des matchs qui n'étaient pas toujours bien embarqués, et avec cet exemple ultime de la rencontre à Lyon, j'ai le sentiment qu'ils sont dans un sprint final. Et pour moi, ils ne vont pas lâcher de points. Donc, si Lille va être champion, mais sans lâcher de points.
Philippe,
pour moi, ils vont gagner tous leurs matchs.
Alors, Philippe l'analyse, je la rejoins. Lille va gagner tous ses matchs.
Moi, j'ai l'impression que Lille, Paris et Monaco vont faire un sans faute.
Lille gagne contre Nice ce soir.
Ouais.
Lille fait.
À Lens.
À Lens. Gagne à Lens.
Ils vont gagner à Lens.
Mais oui, ils vont
Lille gagne contre Saint-Etienne.
Nous sommes
d'accord. Nous sommes d'accord. Et Lille gagne à Angers.
Ils iront le chercher, Christophe,
s'il
faut aller gagner en jeu.
C'est Lens-Lille, le point de...
Si vous permettez, là, vous êtes dans vos calculs d'apothicaire et je suis bien triste que vous n'ayez pas dormi toute la nuit pour nous sortir des chiffres comme ça. Et si je peux me permettre... Je suis triste pour... Non, mais je suis triste pour vous, chef, hein, franchement, si vous permettez.
Vous voulez revenir pendant l'Euro ?
J'aimerais bien, mais je ne sais pas tout de suite. Alors, et revenir sur Philippe et là...
Non, mais c'est des chiffres.
Mais bien sûr, nous avons compris. Je taquine souvent Philippe et j'assume aussi parfois. Tout le monde sait que j'ai mon cœur lillois. Que je suis supporter du LOSC, j'y ai travaillé. Eh bien, je vais vous étonner. Je pense que, pour ce que Xavier a dit tout à l'heure, Lille à domicile contre Montpellier, ça a perdu des points. Je suis d'accord avec Philippe qu'il y a cette espèce de fighting spirit, on l'a vu la semaine dernière à Lyon, avec une envie, avec Galtier, ils ne vont pas faire ça encore pendant 4 matchs. Les miracles, j'aimerais bien que Lille soit champion. Je vais vous dire sur qui je mets une pièce, ça fait un mois que je le bugle, et j'en suis convaincu, et je vais peut-être me tromper. Moi, je mets une pièce sur l'AS Monaco. Parce que Monaco, ils sont frais comme des gardons. Vous savez ce que c'est en Belgique, on dit frais comme des gardons, c'est des poissons.
En France aussi.
Ils sont frais.
C'est en
ils ont un entraîneur qui fait des choix, qui met Bagnéder sur le banc, il rentre, il met des buts, il fait des rotations. Et ils ont un calendrier qui n'est pas
plus compliqués que les autres. Et j'ai l'impression que Monaco, au sprint final, vont sauter sur la ligne tout le monde. Et j'ai envie de dire...
Ça veut dire que Paris et Lille vont lâcher
des points.
Dans
leur calendrier, ils ont quand même Rennes, oui, contre qui le PSG va faire match nul, selon Christian Olivier. Non. Et ils ont quand même Lens, contre qui
Xavier, je termine.
Il n'est pas plus facile, leur calendrier.
Lens, Lille va devoir jouer contre Lens. Ce sont des derbies. Ça peut être des matchs nuls. Je pense que Monaco n'a pas vraiment...
Ça change beaucoup de choses.
J'ai pas vraiment l'impression que Monaco a devant lui une peur des matchs qu'ils vont jouer. Voilà, c'est un point de vue personnel.
Alors, Lille, le PSG, Monaco ou Lyon, Sébastien Tarrago?
Non mais contrairement à vous, chers amis, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas qui sera champion de France. Après là, on n'est plus dans le domaine de l'analyse,
non, on est dans le domaine du jeu.
Oui. Moi j'aurais tendance à penser que ce sera Paris, mais voilà, si Lille, on sait très bien que si Lille gagne tous ses matchs, Lille sera champion. Donc
et le numéro 2, tu mets qui?
Tu sais Lille-Monaco. Lille.
Alors vous êtes d'accord avec les amateurs de football, puisque le sondage Odoxa Winamax RTL d'hier, révélé hier dans RTL Foot et décortiqué encore ce matin à 9h sur l'antenne de RTL, la matinale de Stéphane Carpentier, eh bien les amateurs de foot placent le PSG, ils sont 44%, 35% pour Lille, 10% pour Monaco, 10% pour Lyon également. Eh bien, on constate quand même la baisse hein, sur le PSG, parce qu'en mars dernier, il y avait 58%.
Oui, encore une fois, Christian, pour le PSG, on revient aussi à ce qui va se passer en Champions League.
44,
tu te qualifies en Champions League, ça peut être arme à double tranchant parce que tu dois jouer cette finale. Tu perds en Champions League, ton moral est à zéro et tu perds des points. Tout ça est aussi envisageable pour Paris. Ouais, c'est pour ça que je pense que Monaco n'a pas de contraintes. Je pense que Lille, ils sont quasiment à la rupture, et Dieu sait que j'aime ce club, et la semaine dernière, cette victoire fantastique contre Lyon, je pense qu'ils sont dans le rouge quoi, tout le temps, et qu'à un moment, quand tu es dans le rouge, ça devient compliqué. J'ai envie que Lille soit champion. Moi, je vais dire un Monaco, deux Lille, trois Paris Saint-Germain.
Pour une équipe qui est dans le rouge, ils ont quand même largement pris le plus de points possible dans le match à 4. Il arrive un moment où c'est plus du hasard.
La démonstration qu'ils ont fait au Parc
des Princes, 10 jours à peine après la victoire du PSG qui avait mis 4 à Lyon et qui avait encore un peu lâché l'affaire en deuxième période, mais où Lyon s'était fait littéralement massacrer, personne imaginait que 10 jours plus tard, Lille allait faire la démonstration dans le jeu qu'il a fait au Parc des Princes. Et ça a été la même chose dans bien des matchs.
Oui, mais à domicile, tu perds des points. Contre Montpellier, c'est pas le seul.
Les amis, la popularité. Ça, ça m'a interpellé.
Après, c'est Lille.
Pour les amateurs de football, la popularité, c'est Lille, 82%, devant Monaco, 80%, l'Olympique Lyonnais, 69%, le PSG, 55%.
Le PSG, il y a toujours un phénomène d'adhésion rejet. C'est le club qui ne laisse pas indifférent, c'est le club de la capitale. Donc forcément, on aime ou on n'aime pas. Après, systématiquement, tu vas en province, les gens, ils n'aiment pas le PSG ou ils aiment le PSG, c'est tout.
Ils achètent le maillot du PSG, mais quand il y a le sondage, ils disent qu'ils n'aiment pas le PSG.
Non, mais du coup, quand il y a pour ou contre le PSG, donc du coup, c'est Lille, ben, ils sont pour Lille contre le PSG.
Non, on peut voir l'inverse. On peut voir aussi Galtier.
Et puis la saison prochaine, ce sera Lyon ou ce sera Montpellier. Souviens-toi, en 2012, tout le monde était pour Montpellier parce qu'ils étaient contre le PSG.
Xavier, excuse-moi, tu peux voir l'inverse. Tu peux voir aussi Galtier qui montre une attitude de guerrier avec un groupe qui fait vraiment la remontada, là, Lyon, c'est vraiment ça. Et tu peux avoir des attitudes, avec un entraîneur Kovac qui fait jouer des jeunes. Il n'y a pas que de l'anti-PSG. Et je pense qu'il y a des attitudes qui sont
compliquées. Je pense que dans les prochains jours sur RTL ou avec Silvestro ou ici autour de cette table, on lancera le débat qui est le meilleur entraîneur de la saison.
Saison, très bien.
C'est une bonne question.
Non, mais très bien.
Dijon, ça on le sait, jouera malheureusement pour les Dijonnais. Hein. Création d'un centre de formation, peut-être un nouveau stade. Dijon jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Lorient, Nantes, Nîmes.
Ah oui, sport à parler, hein, Dijon, quand t'as 18 points au bout de 33 journées. On va renier gentiment sur le prochain débat.
On est d'accord. La publicité, et on reniera gentiment sur le prochain débat.
Sur la Ligue 1 à 18, ouais.
Il se prépare à la présentation dont on fait le match. Ce sera pour très bientôt, Philippe Sanfourche.
Il va y arriver ?
Ah, il est très bon. Très très bon. La
publicité. RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
9h30, on refait le match. Sanfourche, Barré, Powels, Tarrago, pour aller plus vite, on évite de citer les prénoms. Philippe souhaitait rogner un peu sur le débat suivant, la Ligue 1 à 16 ou 18 pour ou contre, par rapport à la descente, c'est ça? Dijon, bah oui, c'est bien sûr, c'est le sport, mais c'est quand même dommage pour Dijon.
Oui, c'est, quand même dommage. C'est dommage, parce qu'en fait, ça dépend toujours quel est le prisme, de quel côté on se place. Effectivement, que pour tous les amoureux de ces clubs, au travers, on va dire, l'ensemble de la géographie française, qu'il y ait 20 villes représentées parmi l'élite, ça paraît pas scandaleux. Après, on s'aperçoit aussi que dans tous ces championnats à 20, et là, j'ai regardé un peu aussi nos amis anglais, nos amis espagnols, les équipes qui terminent à la fin, là, 19 et 20, c'est quand même très très faible, quoi. Dijon, c'est pas possible. Quand tu termines avec aussi peu de points, quel est l'intérêt d'avoir cette équipe dans ce championnat ? J'ai rien contre les Dijonais, parce que les saisons précédentes, ils nous ont offert des chances.
Philippe, c'est le sport, ça. Bah mais parfois, t'as des équipes très faibles.
Dijon, il y a quand même
d'autres saisons.
Quand tu regardes nos amis d'Eibar en Espagne ou Sheffield United qui a 17 points en Angleterre cette année, alors que t'es en première ligue, ok, mais alors, est-ce que ces équipes elles avaient leur place cette année-là?
En quoi ça va ça? En plus, bon, on peut en parler, pourquoi pas. Mais c'est pas, tu sais très bien que c'est pas pour ça que les responsables de clubs du football français veulent le faire.
Le caractère conjoncturel de passer à 18, c'est autre chose.
C'est le sport d'avoir des équipes plus faibles. Et si t'es à 16,
on est dans une période où on se pose la question de l'intérêt du foot et de la jeune génération.
On va en parler dans un instant. On va en parler dans un instant. La Ligue 1 à 16, 18, 12, disait pourquoi pas Tarago dans le sommaire. Baptiste Durieux, l'émission 100% interactive, les nombreux messages sur le compte @RTLFoot, compte Twitter.
Et des messages très élogieux à votre égard et sur vos travaux, Christian Olivier. Ah. Message de Simon. Travail d'orfèvre, rapport d'expert comptable d'une précision légendaire, analyse qui ne souffre d'aucune contestation. Je partage la même vision. Le classement ne changera pas. C'est le message de Simon. Et message de Loris. Pour une fois, je ne me prononce pas et j'en suis très heureux de me dire qu'à la 35e journée, je n'ai aucune idée de qui sera champion de France. La dynamique voudrait que ce soit Monaco, la logique voudrait le PSG, le mérite voudrait Lille et Olas voudrait Lyon.
Et Olas voudrait Lyon.
L'expert comptable, on va vous appeler maintenant. Oh là 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 là.
Je dois la vérité de dire que j'ai toujours été très très mauvais en calcul.
Ah non, mais Christian, il y a un homme de chiffres qui s'ignore.
C'est pour ça que j'y ai passé la nuit.
Ah,
3
ça.
Plus 3.
Alors finalement, il suffisait de regarder le classement ce matin et puis c'était le même que le vôtre.
Ne soyez pas méprisant. La Ligue 1 à 16, 18, 12, disiez-vous. Voilà du mépris pour ceux qui veulent moderniser le football.
Beaucoup de mépris pour ces gens.
Mais il faut avancer.
Mais attendez,
il y a plus de place
l'idée,
pour
c'est quoi bon, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir plus d'argent. C'est pas que le spectacle soit meilleur. Arrêtons. C'est qu'ils aient plus d'argent. Ok. Quand on donne plus d'argent à ces gens-là, ils en font quoi? Ils le donnent à des joueurs moyens,
vous faites les réponses,
voire mauvais. Donc, je ne crois pas qu'il soit raisonnable de donner plus d'argent à ces gens-là. Ils n'ont pas prouvé qu'ils méritaient d'avoir plus d'argent et qu'on leur fasse confiance pour que le spectacle soit meilleur, pour que les clubs soient mieux gérés et pour que le championnat soit passionnant. D'ailleurs, il est passionnant cette saison alors qu'ils sont 20.
Et est-ce qu'en 97 jusqu'à 2000-2001, Xavier Barret, rafraîchissez-nous la mémoire.
2003, je crois.
2003, il y avait autant. On était déjà dans l'argent à tout va. Parce qu'à cette époque-là, on est passé de.
Oui, on est passé de 20 à 18.
On est passé de 20 à 18. En Coupe d'Europe, ça a été beaucoup mieux.
On est passé de 20 à 18. Je me souviens de Giroud qui pestait contre cette décision. Parce qu'effectivement, ça faisait 4 matchs de moins par saison, donc 4 recettes en moins.
Oui, et puis la JOCR à l'époque.
Et les droits télé étaient moins importants dans les budgets des clubs par rapport aux rentrées guichets. Depuis, ils ont complètement explosé, effectivement. Donc c'est forcément les télés qui font la loi. Mais alors effectivement, si le principal bailleur de fonds du football français veut un championnat resserré, il y a des chances que les clubs s'y plient. Ça, c'est évident.
Pardon.
Non, allez-y.
Non, je voudrais juste vous dire, mais vraiment.
Il y en a combien en Belgique?
Justement, moi qui viens d'un championnat qui est vraiment catastrophique, où déjà là maintenant, il n'y a plus que 4 clubs qui vont jouer pour le titre avec des play-offs 1, des play-offs 2, enfin une mascarade.
Il y en a combien alors? Il y a combien de clubs dans la Jupiler?
18. 16, pardon.
16 clubs.
16, mais avec un relégable. Enfin, c'est du bricolage. Moi, je prône ce système français depuis des années. Parce que je pense que. Moi, j'aimais bien à l'époque 3 descendants, 3 montants. Parce que ça donne. Et on le voit, même cette année, en fin de classement, il y a un vrai combat.
Mais c'est fini, ça.
Non, mais même dans ce nouveau système que vous avez maintenant, non, mais le combat est bon. Je ne vois pas pourquoi on va changer, diminuer le nombre d'équipes. Pourquoi? Pour faire de la qualité? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée pour faire de la qualité?
C'est pour gagner une Coupe d'Europe.
Mais je crois pas un mot. Il y a toujours une équipe de mauvaise.
La qualité, vous l'aurez peut-être.
Après,
la qualité, Philippe, j'arrive. La qualité, vous l'aurez peut-être avec l'allègement du calendrier français, provoqué par la surcharge désormais du calendrier Ligue des Champions, puisqu'il y aura plus de matchs en Ligue des Champions.
Vous prenez un football qui n'est plus à 2 vitesses, mais à 4 vitesses, avec des clubs qui vont énormément jouer et des clubs qui vont très peu jouer. Donc les clubs qui finiront 10e, 11e, 12e, 13e, ils auront très peu de matchs et les autres en joueront deux fois plus dans une saison. Bah super, vive le foot.
En fait, ça s'inscrit dans une pensée globale, même si on est d'accord qu'en ce moment, le fait de vouloir accélérer ce processus, c'est conjoncturel de la part du diffuseur et de la part des directions de club, pour de l'argent, on l'a dit, c'est clair, c'est net. Donc, ils prennent cette éventuelle décision pour des mauvaises raisons. Maintenant, l'idée de vouloir un peu densifier, d'aller vers quelque chose qui soit plus de l'élite et que le produit soit meilleur, je pense qu'on doit en passer par là. Parce que les mauvaises analyses de dire « les jeunes regardent plus le foot parce que les matchs sont trop longs, faut les saucissonner, faut faire des trucs en 10 minutes, machin », ça, c'est prendre le problème à l'envers. Si on offre des matchs de qualité, s'il y a de la densité, s'il y a des joueurs de qualité sur le terrain, les jeunes, ils s'intéresseront, ils sont pas idiots. Par contre, il faut que ce soit assorti d'autres règles. Il y a quelque chose dont on parle pas, mais qui, à mon avis, est le plus important, c'est qu'il faut absolument limiter le nombre de contrats pro par club. C'est-à-dire qu'il faut arrêter que et le PSG, et Lyon, et Monaco, et Lille, et Marseille, et 25, 30, 35 joueurs sous contrat.
Avec des super joueurs qui ne jouent jamais.
Plus tu descends en gamme, et plus tu te retrouves avec des effectifs appauvris, parce que les 10, 12, 15 joueurs qui ne jouent pas au PSG, s'ils étaient disséminés dans les autres clubs,
ils ne seraient pas disséminés dans les autres clubs parce qu'ils viennent au PSG, parce que c'est le PSG, parce que la plupart de ces joueurs sont des étrangers. Donc ils viennent d'Argentine, d'Espagne ou d'Allemagne pour jouer au PSG.
Mais parce que le système le permet.
Ils n'iront jamais jouer à Dijon ou à Lorient. Donc si tu veux, à l'inverse, le PSG prête des jeunes. On a vu cet après-midi encore Kalimuendo qui joue avec Lens. Le système est comme ça. Est-ce que si vous ramenez la Ligue 1 à 18,
voire 16,
vous aurez un championnat plus dense? Franchement, j'en suis pas convaincu. Et par contre, vous allez priver ce fameux ascenseur, alors pas social mais sportif. Vous allez le réduire avec des clubs qui descendent, qui refont du bon travail, qui lancent des jeunes parce qu'effectivement, ils n'ont pas en Ligue 2. Les mêmes droits télé, donc les mêmes ressources qu'en Ligue 1. Donc quand ils descendent, il faut rappeler qu'automatiquement c'est moins 20 ou moins 30% sur les salaires des joueurs, donc les joueurs s'en vont, donc ils doivent reconstituer des effectifs, ils s'appuient sur les jeunes, ils donnent la chance à ces jeunes et parfois ils montent avec eux. Regardez ce qu'a réussi Lens cette saison. Franchement, eh bien, si vous réduisez cet ascenseur qui est de 3 places actuellement ou 2,5, et si vous le réduisez encore à une place, eh bien, vous vous coupez un peu plus du football de base. Et moi je suis assez d'accord avec
son analyse, mais faut jamais oublier aussi que on pense pas souvent aux supporters aussi, ceux qui regardent le foot. Et Philippe, le mec qui est supporter de Nantes, même si son équipe est aux abois et qui n'est pas bien, quand Nantes vient gagner au Paris Saint-Germain, les supporters de Nantes sont contents. Donc je pense qu'il faut laisser toujours l'ouverture équipes qui sont plus faibles, mais qui peuvent toujours évoluer comme des équipes plus grandes. Je pense que je suis d'accord avec l'analyse.
Je donne un exemple, Valdemar Quita est a priori plutôt contre ce projet de 18 ou 16 clubs.
Parce qu'il a moins les moyens, comme tous ces clubs qui ont moins les moyens pour pouvoir lutter contre Paris et compagnie, ça fait partie du foot. Et moi, je pense que c'est pas en réduisant qu'on va améliorer la qualité et que ça va améliorer le championnat de France. Moi, je pense qu'il faut laisser ce nombre d'équipes avec. Moi, je vous répète, j'aime bien ce système d'ascenseur. Ça veut dire que les trois plus faibles descendent et les meilleurs en Ligue 2 remontent.
C'est quand même amusant d'assister à tout ce cinéma quelques jours après l'histoire de la Super League, où les Che Guevara du bac à sable, président de club des grands clubs français, nous ont expliqué qu'ils pensaient au peuple au moment où il s'agissait de s'opposer à la Super League. Là, pardonnez-moi, mais je pouffe et j'ai du mal à comprendre comment on peut tomber dans ce cinéma.
Mais évidemment, on nous a raconté des balivernes avec cette histoire, puisque moi, j'ai le souvenir, je fais souvent référence à ce souvenir-là, mais il y a 2-3 ans, il y avait un séminaire du syndicat Première Ligue, le syndicat des clubs de Ligue 1, qui se déroulait à Monaco en fin de saison. Et je m'étais rendu à ce séminaire. Et il se trouve que l'invité d'honneur du séminaire était le patron de la MLS, donc du foot américain, système franchisé. Et qui avait développé tout son système et qui avait expliqué comment, à la fois sportivement et économiquement, les choses fonctionnaient. Je peux vous dire que 80% des présidents de Ligue 1 qui étaient dans la salle avaient des étoiles dans les yeux. Ils en rêvent d'un système comme celui-là où tu peux sécuriser tes investissements, où sportivement, il n'y a pas le risque de la descente. Donc, tout ça, c'est la tentation de scléroser le système, de figer les positions et de faire que les entités importantes du foot français n'aient pas le moindre risque de descente, n'aient pas le moindre risque de perte d'investissement. Donc il faut faire attention à ça toujours.
Aussi de ce système à l'américaine parce qu'il y a le salary cap, que les joueurs, il y a le système de draft pour les joueurs dans le football aussi, hein, MLS, c'est-à-dire que les meilleurs vont aller dans les petits clubs.
Sauf que si tu as le salary cap, tu n'as pas le PSG.
Ben voilà. Donc c'est pas encore tout à fait fait.
C'est si pas applicable fait, en France. C'est pour la saison 2000, à partir de 2022-2023.
Ils n'ont pas d'autres priorités. Ça arrive très vite. Hein.
Il va falloir 4 descentes pour 2 montées seulement. Oui. Et ça pourrait se décider lors de l'Assemblée Générale de la Ligue du football professionnel début juin.
Moi, ça a un impact très fort dès la saison prochaine, évidemment.
Il faut quand même rappeler qu'à l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas qui diffusera.
J'aimerais bien que tous ces grands penseurs pensent aussi au football amateur avant d'essayer de nous pondre des choses maintenant. On n'en a pas besoin.
Et d'ailleurs, il y a peut-être aussi un corollaire entre le diffuseur qui souhaite peut-être un championnat un peu plus resserré, pour un spectacle de meilleure qualité.
Parce qu'on réduit un peu le milieu, ce qu'on appelle le ventre mou, donc on peut imaginer qu'il y ait plus d'enjeux.
Les messages.
Et n'oublions pas juste une chose, c'est que la Coupe de la Ligue a été supprimée déjà.
Ouais.
Donc c'est double peine, c'est-à-dire que c'est des dates en moins encore.
Les messages sur le compte @RTLFoot, sur Twitter par conséquent, Baptiste Durieux.
La réaction d'Arthur, le retour de la Ligue 1 à 18 clubs, c'est un grand oui, que ce soit l'allègement des saisons et l'augmentation de la compétitivité. Il n'y a vraiment que des points positifs, fini les catastrophes comme Toulouse ou Dijon, et rien que pour ça, on doit le faire au plus vite. Message de Franck également, la Ligue 1 à 18, c'est encore un peu plus la mort du foot populaire, c'est se rassembler entre gros et exclure encore plus les petits. Tout ça pourquoi ? Pour quelques euros de plus qui ne feront aucune différence sur la scène européenne. C'est la Super League à la française. Et message d'Axel qui globalise un petit peu le débat. On remet le foot en question sans se remettre en question soi-même. Le jeu proposé par la majorité des entraîneurs français, la post-formation, l'identité de jeu du football français. S'il y a du ménage à faire, c'est là qu'il faut frapper.
Les catastrophes de Toulouse et Dijon, ça vous a fait réagir.
Bah ouais. Mais non, mais c'est le foot, c'est le sport. C'est... Bah ouais. Arrêtons avec tout ça. Il y aura les mêmes choses avec une Ligue 1 à 18. Le 18e, il sera peut-être complètement à la rue.
Et la beauté du sport, vous voyez Nîmes condamné en décembre. On dit ils sont morts, ils se battent encore maintenant pour essayer de s'en sortir. Donc je veux dire, ça fait partie du foot d'avoir toujours une ou deux équipes.
Puis regardons dans l'autre sens. Lens qui monte, qui joue l'Europe.
Metz qui fait aussi une
saison remarquable. Enfin, bref, ces promus qui arrivent. Strasbourg, regardez où était Strasbourg il y a quelques années.
Strasbourg. Je suis obligé de vous interrompre, Xavier Barré. Bon. Si vous voulez qu'on parle un peu de votre livre, le temps nous est désormais compté. J'aurais voulu également parler de Bordeaux-Saint-Etienne, mais loin d'être vendu, point d'interrogation. On va essayer de tout caser avant le RTL Foot qui démarrera à 20h. Il nous reste une petite vingtaine de minutes, ça devrait faire.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match.
Je n'aime pas la nuance, j'aime les avis tranchés, je n'aime pas le politiquement correct et je déteste la langue de bois.
Avec Christian Olivier.
Bon, 18, hein.
Ça, c'est l'ami à la réalisation.
Là, ça c'est quand même du haut niveau.
Ce n'est pas une radio parallèle, c'est ce qui a été dit un peu plus tôt. Bon, Bordeaux-Saint-Etienne, adjugé, mais loin d'être vendu. Je ne sais pas par quel bout commencer cette actualité. Il y a 3 projets maintenant, mais alors 3 projets locaux au Girondins de Bordeaux. Mmh. Et à Saint-Etienne, les Américains pointent du nez maintenant et trouvent la caution Mathieu Bonnemère éventuellement intéressante.
Ouais, mais ça, c'est ce qu'on lit dans les journaux. Parce qu'après, il va falloir mettre l'argent sur la table.
Bah oui.
C'est-à-dire que pour un repreneur, d'abord, ce sont les infrastructures, ça c'est la priorité. La deuxième chose, c'est voir s'il n'y a pas de cadavres dans les tiroirs.
Il y a 70 millions de dettes au Girondins de Bordeaux.
Oui, 80 même pour cette saison. Plus,
qu'il faut racheter.
Bordeaux, c'est déjà beaucoup d'argent à renflouer. Mais surtout, le problème, c'est que les fonds de pension qui viennent ici, pourquoi ils sont venus dans les clubs français ? Parce qu'il y avait les droits télé qui explosaient et une bonne formation. Ils se sont dit, on va gagner de la thune. Et ils se retrouvent finalement avec des clubs qui sont en déficit et à cause du Covid, un marché des transferts qui est à zéro. Parce qu'il n'y a plus que quelques clubs anglais qui peuvent acheter. Donc ils s'en vont vite maintenant parce qu'ils ont déjà perdu un peu d'argent et ils ne veulent pas en perdre plus. Donc le rachat de Saint-Etienne par un autre fonds de pension, j'y crois pas trop.
Américain ?
Oui, un fonds américain.
Ouais. Avec caution Mathieu Bonnemère ?
Oui, non, mais Mathieu, c'est un très bon mec. Mais est-ce qu'il a toutes les données ? Je ne suis pas sûr. Il faudrait voir ça de plus près.
Le problème, vous savez, pour faire une reprise, parce que par exemple, Monsieur Lopez qui a mis Moucron, le petit club belge qui vient de descendre dans des situations compliquées, donc il y a des racheteurs. Et c'est un peu la même chose qu'avec Bordeaux et Saint-Etienne. Tous les semaines, il y a un nouveau. Tous les semaines, il y a un fonds de pension américain, thaïlandais, chinois. Mais c'est toujours la même situation. C'est qu'il faut mettre des garanties, il faut mettre de l'argent sur la table. Il ne suffit pas de faire des montages financiers comme pouvait faire M. Lopez avec l'argent des autres. Et il y a un moment à la DNCG, il ne faut pas les prendre pour des jambons. Il faut aussi payer les dettes qui sont quand même lourdes et grosses. Et donc, moi, je suis quand même très surpris. J'attends vraiment qu'il y ait des vrais investisseurs qui reviennent. Ça,
sachant quand même que l'image de Bordeaux, elle, on peut dire c'est une belle ville où il y a du vin et tout ce que vous voulez pour vendre l'image de Bordeaux, mais le club a quand même pris cher dans la gueule en termes d'image depuis quelques années, et racheter Bordeaux, il va falloir fluctuer. Et je suis pas sûr dans la conjoncture footballistique que l'on voit maintenant que les mecs qui vont acheter Bordeaux, ils vont faire du fric rapidement. Hein.
Alors, mais le problème, encore une fois, c'est l'évolution du sport et du football depuis l'arrêt Bosman. Avant, vous aviez des gens qui avaient leur danseuse et qui allaient dans le sport en espérant perdre le moins d'argent possible. Et si possible, être à l'équilibre, bien sûr, mais en espérant perdre le moins d'argent possible. Aujourd'hui, vous parlez de fonds de pension. Les fonds de pension, ils veulent gagner de l'argent. Ouais, et ils veulent pas faire des placements à 1% ou 2%. Ils sont là pour gagner de l'argent. Donc, s'ils viennent, ce n'est pas pour l'amour du sport, ce ne sera jamais pour l'amour du sport, et ce ne sera que pour faire du business pur et dur, comme cela a été, comme on a tenté de le faire, en tout cas, à Bordeaux, avec beaucoup, un grand échec. Et donc, c'est le drame du sport. Donc, ça n'ira jamais bien tant que les gens qui viennent racheter des clubs sont là pour faire de l'argent. Je comprends qu'on veuille ne pas en perdre, ça va de soi.
Alors à Bordeaux,
mais il faut espérer que ce soit des gens qui aiment le sport et qui veulent se faire plaisir.
Alors je rappelle qu'à Bordeaux, il y a actuellement, vous me corrigez si je me trompe, 3 projets locaux. Il y en a un vraiment très très local où on veut associer les supporters en tant qu'actionnaires. Un entrepreneuriat local également avec monsieur Pascal Rigaud, qui a une chaîne de boulangerie en
Californie. On revient toujours aux États-Unis.
Lui, c'est son argent. Voilà. Il a vendu sa chaîne de boulangerie à Starbucks aux États-Unis, donc il a du cash.
Associé à Bruno Fievé, c'est ça.
Voilà.
Ça,
mais est-ce qu'il a vraiment les on dit qu'il a 300 millions d'euros. Effectivement, 300 millions d'euros, ah, c'est pas mal. Mais pour un club de foot, c'est pas.
Il y a aussi François Pinault, propriétaire du Château Latour, qui a appelé ses collègues.
Oui, mais enfin trio. Jean-Louis Trio a été président des Girondins de Bordeaux pendant combien, 15 ans ou 20 ans lui-même. Issu d'une famille de vignerons bordelais, il a toujours été un peu seul, hein, il n'a jamais été beaucoup épaulé.
N'oubliez pas qu'il y a aussi une loi qui s'appelle la loi Evin, qui fait que les acteurs du monde du vin auront finalement assez peu de possibilités de mettre en valeur leur investissement. Bon, donc on peut pas...
Et l'histoire de Mediapro n'a pas aidé. Hein. La casquette des droits TV, ça fait reculer pas mal
d'investissements. Pour terminer sur ce dossier-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on disait que quelle est la nature de l'investissement, la nature profonde de la volonté de l'investissement, savoir les fonds de pension prendre du cash tout de suite, ce qui était d'ailleurs annoncé, hein, souvenez-vous, quand les GAPC et compagnie sont arrivés, les premières interviews, c'était on est là pour 5 à 10 ans, hein, c'était déjà, alors qu'on était en pleine euphorie.
Ça s'appelle un business plan.
Bon, il ne s'agit pas d'être dans la régulation, on ne va pas revenir à un système soviétique, mais regardez nos amis allemands, par exemple. Ils ont un truc qui est très simple.
Oui, tu l'as déjà dit la semaine dernière.
Oui, mais c'est quand même la base. À partir du moment où déjà tu fais que tu garantis que la moitié de ton capital avec tes investisseurs.
Tu as raison, mais tu l'as dit la semaine dernière.
Non, parce que tu sécurises un peu les choses.
Il faut pas mettre tous les patrons de club dans le même sac.
Mais personne ne
le fait. Quitta à Nantes. Bon, on peut lui reprocher ses changements perpétuels d'entraîneur, mais c'est son argent qu'il met dans le club. Et si Nantes arrive à continuer de se maintenir en Ligue 1, je l'espère en tout cas, c'est parce qu'il y a Quitta qui met de l'argent toujours. À Reims, Caillot, petit entrepreneur de transport.
D'ailleurs, on peut s'étonner pourquoi à Reims, le champagne ne vient pas.
Le champagne, ils ont des loges au stade, c'est tout. Oui,
mais c'est quand même des modèles
Caillot,
compliqués, Xavier.
Parce
que ces gens-là, à un moment, ils arrivent. Ils sont pas des fonds perdus, quoi. Il y a un moment, ils ne peuvent plus mettre plus, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire appel à d'autres.
C'est de plus en plus rare. Et ce n'est pas l'avenir, malheureusement.
Pour le moment, c'est la meilleure garantie pour les clubs français. C'est d'avoir un mécène qui a une entreprise qui tient la route, qui a un centre de formation qui produit des bons
joueurs,
Reims, Montpellier, et puis le mec, il dit voilà, moi je peux mettre ça, pas plus.
Bon,
pour le moment, ces clubs-là, ils se maintiennent dans
Ligue 1. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Frédéric Longuepé, le président toujours des Girondins de Bordeaux, c'est lui qui mandate la banque Rothschild pour trouver un nouveau propriétaire, un nouvel
actionnaire. Mais lui, il est très drôle quand même. Non, il a le mérite de faire rire.
C'est quand même lui qui doit justifier un bilan.
Ouais, mais de toute façon, le problème, il est. Il dépasse M. Longuepé.
Bon,
enfin, il a commis beaucoup d'erreurs.
Dans le dos de King Street, il.
Mais encore une fois,
il envoie le club au tribunal de commerce.
Mais il l'a peut-être sauvé. On n'a pas. Moi, j'ai pas le nez dans les comptes, mais s'il a eu.
C'est possible.
S'il a eu ce réflexe-là. C'est aussi parce que pour empêcher qu'il y ait les huissiers qui viennent chercher les meubles, hein, pour
Allez,
faire clair. Hein.
Page de pub, les tirs au but, et puis. c'est peut-être le sauveur des gens là-dedans. Mais,
en tout cas, c'est le costume qu'ils vont passer.
Pourquoi
mais
pas.
Peut-être est-ce vrai.
La pub, le bouquin de Xavier Barré et les tirs au but.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Je le montre aux caméras de ce On refait le match, le guide de l'Euro 11 juin, 11 juillet, signé Xavier Barré, édition Solar, toutes les équipes, tous les joueurs, toutes les stats, le calendrier, 60 ans d'histoire. Alors j'ai regardé s'il n'y avait pas une faute, une petite faute de goût dans ce guide, et il n'y a pas de faute de goût car dans aucune de ces pages ne figure le nom des villes.
Ben oui, parce
les pays, mais pas les villes.
Non, ben ça en fait, on les a toutes enlevées. On les a toutes enlevées quand on a bouclé au mois de mars. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a commencé à avoir les infos de l'UEFA comme quoi ben, finalement l'euro aurait peut-être lieu en Angleterre, peut-être en Russie, etc. Donc on s'est dit, on ne peut pas prendre le risque. Donc on a enlevé tous les noms des villes dans les rendez-vous. Et je pense qu'on a bien fait, parce que depuis, il y a encore eu des changements. En revanche, il y a quand même un petit sujet sur les villes qui ont abrité l'euro. Vous l'avez peut-être relevé, Christian, puisque dans les 286 matchs de l'euro, ben, il y a eu 74 villes qui ont abrité déjà l'euro dans l'histoire. Elles sont toutes répertoriées dans le guide.
Alors, il y a plein d'infos, plein d'anecdotes, plein d'histoires. Et on apprend, par exemple, qu'il y a, sur les trois villes qui ont accueilli le plus de matchs de la phase finale du championnat d'Europe des Nations, eh bien, il y a deux villes françaises.
Deux villes françaises, absolument.
Marseille, Paris.
Et Marseille et Paris.
La troisième,
c'est Lisbonne.
Sauf que Lisbonne, il y a deux stades.
Exactement. Il y a deux stades. Il y a le stade du Benfica, le stade du Sporting, qui ont été reconstruits d'ailleurs pour l'Euro 2004. Marseille, tous les matchs ont lieu au Vélodrome. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en France, il y a eu 10 matchs à Paris au Parc des Princes, mais les deux premiers étaient dans l'ancien Parc des Princes, puisqu'entre-temps, il a été reconstruit.
Un message peut-être à Andrea Agnelli, page 18 je crois, sur les finales inoubliables. 9 des 15 finales de l'Euro se sont joués au-delà des 90 minutes, quand on sait qu'Agnelli veut raccourcir le temps de jeu.
Oui, absolument. Puis surtout, il y a eu plein de formats. C'est ce qu'on rappelle aussi dans ce guide. Il y a eu effectivement une finale au tir au but, mais il y avait eu le fameux but en or. Il y a quand même eu deux finales au but en or, dont une gagnée par la France, on s'en souvient bien sûr, en 2000. Il y a eu 1996 également, avec la victoire des Allemands contre les Tchèques. Et puis, il y a eu aussi une finale à rejouer à l'époque où ça se faisait. En 1968, les Italiens jouent une finale à rejouer contre les Yougoslaves. Le premier est match nul. Et puis derrière, ils vont gagner la deuxième finale et remporter leur seul titre européen.
Et c'est quand même très intéressant parce qu'aujourd'hui, on veut resserrer les élites, mais pour ce qui est de compétition internationale à l'UEFA, on l'élargit largement puisqu'à l'Euro 84, il y avait 8 équipes.
Exactement, exactement.
Non, mais vraiment, encore une question d'argent, puisque c'est l'Euro qui fait rapporter le plus et très très largement d'argent à l'UEFA.
Et je vais vous faire, pas de question, mais je vais vous faire réagir parce que c'est une histoire de frangin, le football également, en tout cas le championnat d'Europe. Il y a 20 fratries qui ont joué une phase finale. Et il y a beaucoup de Néerlandais, mais également beaucoup de Belges.
Ouais.
Hein, Lukaku.
Les Lukaku.
Milikant.
Hazard.
Non, les Hazard n'ont pas joué l'Euro encore. Ils ont joué la Coupe du Monde, mais
Eden,
pas l'Euro.
Et Dan Etorgan, ce sera pour cette compétition.
Ouais. Mais
il y avait une question. Peut-être. Eden hésite.
Et j'avais une question. Alors, je peux poser la question
rapidement.
Parce que là, vous parlez de fratrie. Moi, je voulais savoir. Bon, à l'époque, l'Euro s'est fait avec la Belgique et les Pays-Bas ensemble. Est-ce que c'est arrivé d'autres fois où deux pays se sont mis ensemble pour organiser?
Oui, 2008, il y avait les Autrichiens et les
Suisses.
Et puis en 2012, les Ukrainiens et les Polonais. Ils étaient en co-organisation. D'accord. Et donc, il y a déjà eu trois euros co-organisés sur deux pays.
Et Sébastien Tarrago fait bien de dire peut-être pour les frères Hazard. Parce que là, pour le coup, dans la liste des joueurs de l'équipe de France, parce que vous mettez une liste, mais vous mettez 34 joueurs.
Ah bah on est obligé.
On aurait pu faire un débat. Alors parmi les défenseurs, vous nous mettez Jules Koundé.
Oui, parce que je pense que c'est un très bon joueur, et il n'a pas été appelé en A encore, mais bon, il en est pas loin. Puis il faut juste rappeler une chose, c'est qu'il y aura probablement 26 joueurs dans les sélections, donc ça laisse les possibilités pour Didier Deschamps d'en appeler peut-être certains qu'on n'attendait pas.
Au milieu de terrain, vous nous remettez,
il se réveille la nuit, puis il est.
C'est l'air comme ça. Au milieu de terrain, vous nous remettez Nzonzi.
Bah écoutez, oui,
il était là il y a pas très longtemps quand même. Il était là il n'y a pas si longtemps.
Bah oui, il était champion du monde.
Saison, il est venu.
Il est champion du monde en titre. Voilà, il est. J'ai mis Jonathan Ikoné. Oui. Bah il fait une saison extraordinaire avec Lille. Il a déjà été en équipe de France.
Les 34 font une belle saison, donc il va falloir.
Tant qu'à faire, oui.
Mais c'est pas Didier Deschamps, Xavier.
En tout cas, c'est un.
C'est comme ça pour tous les pays. On a ratissé large.
C'est un super guide. C'est lui. Merci. Il y a plein d'infos et vous allez être pompé par les confrères. Hein.
Ah bah, en même temps, oui, ça serait une forme de
anecdote, ça fait briller, etc.
Mais enfin, sauf par Philippe Sanfourche.
Ah non, Philippe Sanfourche a tout dans le cerveau.
Bah, lui, il a déjà écrit son livre aussi.
Et là, lui,
mais lui, il est sympa, il le fait pas paraître.
Philippe Sanfourche, c'est la journée, tandis que vous, c'est la nuit.
Le guide de l'euro, Solar Edition.
9,90€.
C'est un petit cadeau très, très, très sympa. Félicitations.
3 pages, c'est bien.
Merci, Christian.
Ne dévalorisez pas le travail des confrères.
D'ailleurs, je pense il y en a au moins 150.
Les collaborateurs devraient tous en recevoir.
Non, non, 110.
Eh ben voilà. Mais d'après vos calculs, qui gagne l'euro à la fin?
Les tirs au but. Les tirs au but. Je voudrais qu'on ait une pensée pour le 5 mai prochain. 5 mai 92, 29e anniversaire de la tragédie de Furiani. Ouais. Vraiment, je voudrais qu'on y pense. RTL a également été touché avec notre copain Jean-Baptiste Dumas. Il y a eu 18 morts et 2357 spectateurs. Et mercredi prochain, il y aura pas mal de cérémonies à Bastia avec des diffusions vidéo, avec un dépôt de gerbes sur la stèle de Furiani, une messe également à la cathédrale Sainte-Marie de Bastia. Voilà, le 5 mai pour nos amis Corse, Bastia qui revient dans le giron professionnel Ligue 2.
Ouais, c'est une nouvelle, ça.
Ouais, ouais. Je suis très content pour le football corse.
Franchement, ouais. Avec un seul joueur corse professionnel, Gilles Chioni. C'est le seul professionnel qui a fait remonter.
Je peux vous poser une colle?
Ouais, non, il n'y a pas de colle.
Non, ils étaient en 5e division, hein, il faut rappeler, après la du club. Et tous ces gars-là, les Corses, sont revenus pour des gars qui étaient des niveaux D2, D3, qui sont revenus pour refaire remonter le club.
Une seule
avec
question,
un gros budget quand même.
Une oui. seule question, tir au but. Il est prêt, le coup de sifflet. Une seule question. Il y a un club de Ligue 2 qui vaut 15 millions d'euros et qui pourrait être mis à la vente très prochainement. Le connaissez-vous? 15 millions d'euros, club de Ligue 2, mis à la vente très prochainement. Je me tourne vers le spécialiste de la Ligue 2, Sébastien Tarrago.
15 millions, c'est beaucoup.
Le Havre.
Oui, bah, ça, on a appris qu'effectivement, le propriétaire américain du Havre avait envie de vendre son club. C'est pas fait, cette histoire. Et à 15 millions, c'est pas fait non plus.
Un seul tir au but. Merci beaucoup, Sébastien Tarrago. Merci beaucoup à Stéphane Powels, à Philippe Sanfourche et à Xavier Barré. RTL Foot, 20h-23h, avec notamment, mais pas seulement, l'intégralité de Lille OGC Nice.